de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Les tensions au Moyen-Orient s'accentuent. Le ministère du Tourisme et de la Communication donne la priorité au marché d'Australie, d'Inde et de Chine. Président du MPR encourage le renforcement du système de résilience maritime de l'Indonésie. Aucun citoyen indonésien n'a été touché par la réplique à Taïwan, a affirmé le ministère des Affaires étrangères. BNPT de l'Indonésie a participé à la sécurisation du 10e Forum mondial de l'eau à Bali. Excédent de la balance commerciale de la République d'Indonésie se poursuit, atteignant 47 mois consécutifs, a affirmé BPS. Apindo se rend à Hong Kong et à Shenzhen pour renforcer la coopération économique. Voici le journal complet. Le ministère du Tourisme et de la Communication Créative continue de surveiller la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Lors d'une conférence de presse à Jakarta, lundi 20 avril 2024, le ministre du Tourisme et de la Communication Créative, Sandiaga Uno, a déclaré que l'escalade des tensions au Moyen-Orient avait un impact sur le mouvement des touristes étrangers, notamment en provenance d'Europe et Amérique. Par conséquent, le ministère du Tourisme et de l'économie créative donnera la priorité aux marchés plus proches comme l'Australie, l'Inde et la Chine qui ne sont pas directement touchés.
Une stratégie yang kami lakukan Dora adalah fokus kepada daerah yang
et la stratégie que nous mettons en œuvre est de se concentrer sur les zones les plus proches, car au Moyen-Orient, cela pourrait affecter les touristes européens ou américains. Mais depuis l'Asie, le Moyen-Orient et l'Australie, il n'est pas encore possible d'avoir un impact direct. Nous donnerons donc la priorité à l'Australie, à l'Inde, à la Chine et à d'autres marchés. Sandiaga Uno a en outre déclaré qu'il resterait attentif à l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Compte tenu de la situation actuelle au Moyen-Orient, Sandiaga Uno reste optimiste quant à la réalisation de l'objectif touristique de 2024. Le président de l'Assemblée consultative du peuple, Bambang Susatyo, encourage le renforcement de la résilience maritime et du système de sécurité de l'Indonésie par la diplomatie maritime et le renforcement du principal système d'armes de la marine indonésienne. Selon Bambang, ce renforcement est nécessaire car la situation géographique de l'Indonésie est très stratégique. En tant que pays archipel qui compte 17 508 îles et le deuxième plus long littoral après le Canada, soit 89,83 km. Bambang Susatyo dans sa déclaration citée par Antara lundi 22 avril a également déclaré que l'Indonésie possède la sixième plus grande zone maritime au monde après la France, les États-Unis, l'Australie, la Russie et l'Angleterre. Pour cette raison, il soutient l'amélioration des équipements de défense et du bien-être des soldats de la marine indonésienne. Selon Bambang Susatyo, le principe de la trinité de la marine indonésienne, à savoir le rôle militaire, le rôle diplomatique et le rôle de police, notamment grâce à l'utilisation de sous-marins, devrait créer une mer indonésienne sûre, paisible et prospère. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a confirmé qu'aucun citoyen indonésien WNI n'a été touché par la réplique de magnitude 5,5 qui a secoué Taïwan lundi après-midi hors local. Le directeur de la protection des citoyens indonésiens et de l'assistance juridique indonésienne au ministère des Affaires étrangères, Yuda Nugraha, via les réseaux sociaux, a déclaré lundi 22 avril que sur la base de la coordination du Bureau indonésien du commerce et de l'économie, KDEI, de Taipei avec les parties liées et la communauté, aucun citoyen indonésien n'a été touché par les répliques. Yuda a déclaré que le ministère des Affaires étrangères et l'IETO Taipei continuaient de surveiller l'impact des répliques à Hualien à Taïwan. On sait que les répliques ont continué à se produire depuis le séisme qui a secoué l'île le 3 avril 2024 au même endroit, à savoir à Hualien. Le séisme de magnitude 7,4 a fait 10 morts et plus de 1000 blessés. L'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, BNPT, participe à la sécurisation et faire succès du 10e Forum mondial de l'eau, WWF, qui se tiendra à Bali du 18 au 25 mai 2023. Le député du BNPT pour la prévention, la protection et la déradicalisation, le général de division TNI Rudi Widodo, dans un communiqué officiel reçu à Jakarta lundi 22 avril, a déclaré que la contribution du BNPT à la sécurisation de cette prestigieuse activité internationale a été réalisée avant et après l'événement. Pendant ce temps, le général Listio Sigit Prabowo, chef de la police nationale, espère que le forum international se déroulera en toute sécurité grâce à des actions préventives. Le Forum mondial de l'eau est une réunion internationale impliquant un certain nombre de parties prenantes du secteur des ressources en eau, allant du gouvernement, du parlement, des dirigeants politiques, des institutions multilatérales, des universitaires, de la société civile et des hommes d'affaires. L'Agence centrale des statistiques, BPS, a noté qu'en mars 2024, l'Indonésie retrouverait un excédent commercial de 4,47 milliards de dollars américains, prolongeant ainsi son excédent record à 47 mois consécutifs. Le chef interim du BPS, Amalia Adina Widyasanti, a déclaré lors d'une conférence de presse à Jakarta lundi 22 avril que l'excédent de la balance commerciale en mars 2024 était supérieur à celui du mois précédent et du même mois de l'année dernière. Amalia a déclaré que l'excédent provenait du secteur non pétrolier et gazier d'un montant de 6,51 milliards de dollars américains, tandis que le secteur pétrolier et gazier avait un déficit de 2,04 milliards de dollars américains en mars 2024. Amalia a ajouté que les trois pays contribuant au plus grand excédent en 2024 sont les États-Unis avec 1,50 milliard de dollars, l'Inde avec 1,43 milliards de dollars et les Philippines avec 771,7 millions de dollars. La délégation de l'Association des entrepreneurs indonésiennes, APINDO, cible le renforcement de la coopération dans les domaines des infrastructures, de la technologie, de la finance, du commerce et de l'investissement avec Hong Kong et Shenzhen à travers le voyage d'affaires de cette association du 16 au 20 avril 2024. La présidente générale d'APINDO, Shinta Kamdani, dans sa déclaration citée par Antara lundi 22 avril, a déclaré que Hong Kong était depuis longtemps un champion dans la gestion de projets d'infrastructures à grande échelle. Outre les infrastructures, il estime que la coopération commerciale, les investissements et d'autres aspects économiques entre l'Indonésie et Hong Kong continueront de s'intensifier. Shinta a déclaré que Hong Kong occupe la position de troisième plus grand investisseur étranger en Indonésie. L'investissement total pour la période janvier à septembre 2023 a atteint 5,2 milliards de dollars américains. C'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Auditeurs, bonsoir. Voici le code diplomatique. Et pour le titre, les négociations sur l'accord libre-échange entre l'Indonésie et la Tunisie achèvent la discussion sur le texte principal. Le ministère du Commerce a indiqué que les négociations sur l'accord commercial préférentiel Indonésie-Tunisie, ITPTA, seraient immédiatement terminées et que toutes les discussions sur le texte principal de l'ITPTA seraient terminées, y compris l'article sur les échanges compensés et la transposition. Le directeur général des négociations commerciales internationales au ministère indonésien du commerce, en tant que le chef des délégués indonésiens, Johnny Makta, a déclaré que la sixième réunion intersession montrait l'engagement des deux pays à terminer les négociations ITPTA. La neuvième réunion intersession des négociations ITPTA s'est tenue à Tangerang, Banten, du 17 au 19 avril 2024. Selon lui, les deux pays partageaient l'esprit de conclure les négociations ITPTA au milieu de cette année. Par conséquent, dans le processus de négociation, les deux parties ont toujours essayé de faire preuve de pragmatisme et de flexibilité pour faire avancer l'accord. Les deux parties ont également discuté du commerce compensé comme mécanisme de paiement alternatif sans encourager la croissance du commerce bilatéral des deux pays. En outre, les deux parties se sont également mises d'accord sur la plupart des textes, soit 27 des 31 articles concernant l'origine des marchandises. Johnny a ajouté que lors des discussions sur l'accès au marché des marchandises, l'Indonésie et la Tunisie ont convenu de considérer les intérêts économiques des deux parties comme un effort visant à améliorer les avantages économiques et les performances commerciales bilatérales. En cela, Les deux parties ont tenté de faire preuve de plus de flexibilité en tenant compte des intérêts de chaque partie. Les deux délégations ont également salué les progrès des discussions sur les questions de négociation, tant sur le texte que sur l'accès au marché. La flexibilité des deux parties indique le sérieux des deux pays dans leur soutien à l'achèvement accéléré des négociations ITPTA. Johnny a déclaré que la signature de l'ITPTA, qui devrait s'achever en 2024, constituerait une nouvelle étape historique en tant que premier accord commercial préférentiel en Afrique du Nord. Cela ferait de la Tunisie à la fois une porte d'entrée et une plaque tournante commerciale en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les principaux produits d'exportation d'Indonésie vers la Tunisie sont l'huile de palme, le copra, les véhicules automobiles, les fils de filaments synthétiques ainsi que les produits en cuir tanné ou en cuir composite. Dans un contexte d'incertitude géopolitique mondiale, la valeur commerciale de l'Indonésie et de la Tunisie a continué à connaître une croissance positive au cours des cinq dernières années 2018-2023. En 2023, la valeur totale des échanges commerciaux entre les deux pays s'élevait à 217,6 millions de dollars américains, en hausse de 1,09% par rapport à l'année précédente avec 215,3 millions de dollars américains. Chers auditeurs, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 23 avril 1974. Le Boeing 707 de la Pan Am s'écrase à Bali. Le vol Pan Am 812 exploité par le Boeing 707-321B N446PA de Pan American World Airways Clipper Climax était en vol international reliant Hong Kong à Sydney en Australie avec un escale à Denpasar, Bali. Le 23 avril 1974, il s'est écrasé sur un terrain vallonné lorsqu'il se préparait à s'approcher de la piste 09 à Denpasar après avoir volé 4h20 depuis Hong Kong. Il y a eu 107 morts dans cet accident. Les résultats de l'enquête ont révélé qu'outre la défaillance des instruments de l'avion, cet accident était dû à une erreur humaine. Passons maintenant à l'événement sur la Journée mondiale du livre. Le 23 avril est célébrée la Journée mondiale du livre et la Journée du droit d'auteur. L'UNESCO a institué la Journée mondiale du livre le 23 avril 1995 lors de la conférence générale de l'UNESCO tenue à Paris. Cette date a été choisie car elle commémore la mort de trois des plus grands écrivains du monde, à savoir Miguel de Cervantes, William Shakespeare et Inca Garcilaso de la Vega. La célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est un symbole d'espoir et un aspect important de la vie. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la commémoration de la Journée de la langue anglaise et espagnole. La Journée de la langue anglaise et espagnole est célébrée par les Nations Unies (ONU) le 23 avril. Cette date était choisie parce qu'elle coïncidait avec la mort de l'humaniste et écrivain anglais William Shakespeare et de l'expert littéraire espagnol Miguel de Cervantes. L'ONU a créé des journées de langue dans le but de célébrer le multilinguisme et la diversité culturelle, ainsi que de promouvoir l'utilisation des six langues officielles dans l'ensemble de l'organisation. C'est du temps, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Back from
coba dirasain. Getaran itu perlahan hancurkan pertahanan. Rasa yang sekarang, tangan yang kau pegang, lukamu lukaku sirna dalam hujan senyuman.
Saragu jika cinta datang dan memanggilmu, tak sama lu bicara lantang apa yang kau mau. Kalau kau tak cintalah yang tersisa.
Jangan dilawan, lo lemesin aja. Sis, kalau jatuh cinta, bebas-bebas aja. Jangan dilawan, lo lemesin aja. Sis, kalau jatuh cinta, bebas-bebas aja.
You and I cannot deny the vibes too strong to you that I belong. We shouldn't run.
Yang tertahan telah tersampaikan. Dari tatapanmu banyak yang bisa kau ceritakan. Kamu telah ku nanti dari lubuk hati. Aku takkan pergi sampai mati tetap di sini.
C'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc Mon Indonésie.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie, intitulée « Optimiser l'adhésion de l'Indonésie au GAFI pour lutter contre le TPPU-TPPT ». Avec moi, Audrey. Sajoyitar, l'Indonésie est devenue membre à part entière du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme GAFI après la réunion plénière du GAFI à Paris en France le 25 octobre 2023, acceptant l'Indonésie par acclamation en tant que 40e membre du GAFI. La ratification de l'adhésion de l'Indonésie au GAFI est le résultat d'une longue lutte après la nomination de l'Indonésie en tant qu'observateur du GAFI depuis le 29 juin 2018. On espère que la reconnaissance internationale de l'efficacité des réglementations, de la coordination et de la mise en œuvre du régime de lutte contre le blanchiment d'argent, de prévention du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive APU-PPT, PPSPM aura un impact sur une croissance économique rapide grâce à l'investissement à la fois nationaux et étrangers. Avec l'adhésion de l'Indonésie à un membre à part entière du GAFI et la publication du décret présidentiel numéro 14 de 2024, on espère que ce sera la première étape vers une meilleure gouvernance du régime de lutte contre le blanchiment d'argent et la prévention du financement du terrorisme dans le pays. Le président Joko Widodo, lors d'une conférence d'information à l'occasion du 22e anniversaire du mouvement national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme APUPPT au Palais d'État de Jakarta, le 17 avril 2024, espère que l'adhésion à part entière au GAFI pourra être une bonne dynamique pour renforcer l'engagement en faveur de la prévention et de l'éradication du crime de blanchiment d'argent TPPU. Devenir membre du GAFI est considéré comme important pour que la crédibilité économique augmente et que la perception du système financier devienne meilleure et plus positive, encourageant ainsi un afflux d'investissements en Indonésie. La réputation et l'évaluation internationale sont donc très importantes. Hadi Cahyanto, président du Comité national de coordination pour la prévention et l'éradication du TPPU et ministre coordonnateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, a déclaré que la nomination de l'Indonésie en tant que membre à part entière du GAFI offre l'opportunité d'être directement actif dans la formulation des normes internationales liées à la prévention et à l'éradication des TPPU, TPPT et PPSPM. Le plan d'action stratégique national 2024 pour la prévention et l'éradication des TPPU, TPPT et PPSPM a été établi en tant que ligne directrice nationale pour déterminer des stratégies et des politiques pour toutes les parties prenantes visant à atténuer les risques de ces cas, ainsi que les nouvelles menaces qui persistent. Le chef du PPATK, Ivan Yustiavandana, a ajouté que depuis que l'Indonésie a été déclarée membre à part entière du GAFI en octobre 2023, une équipe conjointe avait été formée pour suivre l'adhésion à part entière impliquant 16 ministères ou institutions membres et 7 ministères ou institutions non membres du gouvernement national. Comité de coordination pour la prévention et l'éradication du TPPU. Pendant ce temps, l'observateur du droit pénal de l'Université Pajajaran, Dr. Sigit Suseno, a déclaré que l'adhésion à part entière de l'Indonésie au GAFI doit être optimisée afin qu'elle puisse être utilisée à des fins de prévention et d'application des lois TPPU. Devenir membre à part entière du GAFI signifie que l'Indonésie bénéficie du soutien ou de l'assistance de 39 autres membres dans le contexte de la prévention et de l'application de la loi. La coopération internationale est vraiment nécessaire, étant donné que le TPPU est de nature transnationale, notamment en ce qui concerne les actifs cryptographiques. Dans le même esprit, M. Shokila, expert en sécurité et terrorisme à l'Université Indonesia et responsable du programme d'études sur le terrorisme à la School of Strategic and Global Studies de l'Université Indonesia, voit la nécessité pour le gouvernement de renforcer les synergies liées à la gestion du problème du financement du terrorisme. Par conséquent, l'optimisation de l'adhésion à part entière au GAFI est réellement nécessaire pour faire respecter les lois anti-blanchiment d'argent, prévenir le financement du terrorisme et créer un climat d'investissement propice à la croissance économique nationale. Bon, cher Jeter, c'est tout, mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
luka-luka ada habisnya. Selalu salah, meski kau salah. Gak perlu marah-marah, gak ada gunanya. Gak perlu ditangisi, gak ada artinya. Selalu salah, meski gak salah. Jangan pikir ku takut kamu selingkuh. Tak sedikit pun ku mau mikir dari itu. Jangan kira ku tak mampu tanpa kamu. Penting sakit hati membuatku begitu. Perlu marah-marah, gak ada gunanya. Gak perlu ditangisi, gak ada artinya. Selalu salah, meski gak salah. Jangan pikir ku takut kamu selingkuh. Tak sedikit pun ku memikir dari itu. Jangan kira ku tak mampu tanpa kamu. Sakit hati membuatku begitu.
C'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter Bibliothèque nationale. Le 23 avril est célébré comme la Journée mondiale du livre. Ou plus précisément, la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. L'UNESCO a institué la Journée mondiale du livre le 23 avril 1995 lors de la conférence générale de l'UNESCO tenue à Paris. Cette date a été choisie parce qu'elle correspond à la date de décès de trois des plus grands écrivains du monde, Miguel de Cervantes, William Shakespeare et Inca Garcilaso de la Vega. En commémoration de la Journée mondiale du livre, en particulier pour ceux d'entre vous qui aiment les livres, nous vous recommandons d'une des bibliothèques de Jakarta qui possède non seulement une collection complète de livres, mais aussi instagrammable. Elle s'appelle la Bibliothèque Nationale, située sur Jalan Medan Merdeka Selatan numéro 11, centre de Jakarta. Pour vous y rendre, vous pouvez prendre le bus Transjakarta et descendre à l'arrêt de bus Balai Kota et ensuite marcher jusqu'au bâtiment de la Bibliothèque Nationale. Le bâtiment de la Bibliothèque Nationale se compose de 27 étages, donc 3 étages au sous-sol. Sa hauteur est de 126,3 mètres, ce qui en fait la bibliothèque la plus haute dans le monde. Pour les collections de livres, tout est ici complet. Il y a même des manuscrits anciens, des services multimédia, des audiovisuels, des livres rares, des collections internationales, des expositions diverses et des autres. La Bibliothèque Nationale dispose également de diverses autres installations, telles qu'une salle de théâtre, des services audiovisuels, un espace de culture de la lecture et un centre de données, des services de collection de livres rares, devient le siège du bureau de l'Académie indonésienne des sciences. Il existe diverses activités intéressantes que vous pouvez faire. Vous pouvez regarder des films dans la salle audiovisuelle au 8e étage. Il existe différents films à la Bibliothèque Nationale, ayant des documentaires, fantastiques, dessins animés, pop ou films anciens. Vous pouvez travailler ou bien faire des devoirs à la Bibliothèque Nationale. Elle dispose de nombreux espaces suffisants pour être un lieu de travail. En plus de fournir des chaises et des tables, la Bibliothèque Nationale dispose également d'une connexion Internet gratuite à chaque étage. À cet endroit, vous pouvez également voir la vue sur Jakarta depuis le dernier étage, précisément au 24e étage. Si vous souhaitez voir la vue au 24e étage, vous devez d'abord avoir une carte de membre de la bibliothèque pour pouvoir accéder. Ensuite, vous pouvez vous détendre au café situé au premier étage de la bibliothèque. La Bibliothèque Nationale est ouverte du lundi jusqu'au vendredi de 8h jusqu'à 21h heure locale et le week-end de 9h jusqu'à 16h, heure locale. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Tanganku cinta jangan. saatnya aku mengikat kau dengan kalimat genggam tanganku cinta, jangan kau lepas detak ini milikmu selamanya. Kau lama
c'était la belle chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la Voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. En français, wow, le goût est unique. Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. Wow, le goût est unique. Cette conversation se déroule entre Chris George Robinson, un vlogueur australien, et Sortauli, une amie de la communauté vlog de Chris. Chris a exprimé sa surprise et son admiration pour le goût de la soupe silongkang, une spécialité Sawah Lunto. Bonne écoute.
Sudah pernah makan sup daging sapi kan?
Tentu saja.
Ini sup silongkang, sup daging sapi khas Sawah Lunto.
Wah, rasanya unik. Beda dengan sup daging lain.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui intitulé Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. En français, wow, le goût est unique. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Wah, wah. En français, wow. Rasanya, rasanya, le goût. Unique, unique, unique. Wah, rasanya unique. Wah, rasanya unik. Wow, le goût est unique. Soup daging sapi. Soup daging sapi. La soupe de bœuf. Khas. Khas, typique. Beda. Beda, différent. Tentu saja.
Tentu saja, bien sûr. Chers amis, outre la soupe silungkang, la province de Sumatra occidentale propose de nombreux plats délicieux, dont le rendang, qui a été désigné comme patrimoine culturel immatériel indonésien en 2013. Le rendang est également connu sous le nom de rendang. Rendang est un plat de viande cuit avec des épices et du lait de coco. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Sudah pernah makan sup daging sapi, kan?
Tentu saja.
Ini sup silungkang, sup daging sapi khas Sawah Lunto.
Wah, rasanya unik. Beda dengan sup daging lain.
Chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne.
Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Aujourd'hui, je vais parler d'une chanson malaise intitulée « Mengenang Ayah » chantée par Usman Bengkalis. La chanson « Mengenang Ayah » a été composée par M. Rizal Ical ou Asman. Comme le titre, cette chanson raconte des souvenirs avec son père qui n'est plus là. Surtout pendant l'aide à Fitr, le sentiment de nostalgie devient plus profond. Il avait envie de serrer son père dans ses bras, d'abandonner son désir. Il prie toujours à Dieu pour que son père soit heureux au paradis. Bon, chers auditeurs, voici « Mengenang Ayah » de Usman Bengkalis. Bonne écoute.
Setetes air mata jatuh membasahi pipi ini, gema takbirnya membuai syahdu. Ayah, aku rindu memelukmu. Sesuci pagi Aidil Fitri, terhalang semuanya. Ku sangat ingin memeluk dirimu. Tiada manusia sempurna, tiada juga luput dari alfa. Tiada juga
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.